bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Une bande originale, toujours son avis. Les travaux de décrochage du télésiège dans lequel il est bloqué depuis 4 jours maintenant ont fait du retard, mais les nouvelles sont bonnes. Apparemment, il respire toujours. Bref, sans Nagui, mais avec Albert Algou.
Bonjour.
Frédéric Segris.
Bonjour.
Agnès Hurstel. Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau pour maltraiter l'info. Bien sûr, la cantatrice de la bande originale, Leïla Kadour-Bounadi.
Oui. Bonjour à tous. C'est notre invité aujourd'hui dans la bande originale. Et mademoiselle Barbara Hendricks.
Bravo.
Bonjour.
Bravo.
Bonjour Barbara, soyez la bienvenue au sein de la bande.
Merci,
oui, bonne année. Année, tous nos voeux. Quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année 2019?
D'aimer plus,
ouais.
Avoir, d'apporter le plus d'amour que je peux là où je suis.
Bon, alors ça c'est très un beau message, hein, les garçons, prenez-en de la graine, je dis ça, je dis
moi
rien.
Moi aussi je veux apporter de l'amour,
oui,
là où je suis.
Mais pas trop toi, le problème c'est ça.
C'est les gens qui veulent pas.
Oui c'est ça, les gens n'aiment pas ton amour. Alors Barbara, vous venez nous présenter votre nouvel album, Barbara Hendricks and her Blues Band, The Road to Freedom, le chemin de la liberté. On verra chez Arte Vero, mais on verra à quel point cet album est empreint de liberté. C'est un album très politique, à mon sens, très engagé en tout cas, et ça ne m'étonne pas venant de vous, Barbara Hendricks. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet,
interro encore.
Une petite interro, c'est la tradition, Barbara. Je vous explique.
Psychorigide cette fille.
Oui, absolument. Je tiens à vérifier si mes petits camarades ont bien bossé. Ils ont eu le temps pendant les vacances. C'est parti. Première question, et on essaie de pas loucher sur mes notes. Pourquoi Barbara a toujours refusé d'être habillée par de grands couturiers pour ses concerts?
Parce qu'elle bouge
fait
trop
vœu
dans les
de
concerts.
Pauvreté. Non. Elle a fait vœu de pauvreté.
Non plus.
Elle transpire.
Non plus. Barbara ne transpire pas.
Il fallait.
C'était la minute élégante de la bande originale.
Les gens se concentrent plus sur ce qu'elle chante que sur ce qu'elle porte.
Absolument. Ah, bravo. Bravo Fred pour éviter, c'est ça Barbara, que les spectateurs soient trop distraits.
Oh oui, mais en effet, moi j'avais quelques robes de Givenchy, de Yves Saint Laurent, mais j'avais toujours dit quand je rentre en scène, j'aimerais que le public pense que oui, c'est bien, c'est joli, mais dès la première note, je ne veux pas que les gens pensent à la robe.
Ouais.
Et ça veut dire une robe qui est bien, mais qui n'est pas le sujet de concert.
Oui, le spectacle, ce n'est pas la robe, c'est la voix, c'est l'orchestre,
c'est la musique.
C'est la musique,
la musique
plus globalement. Donc ça veut dire quoi, que vous adoptez des tenues un peu plus quoi, sombres, en couleur, en coupe?
Oui, mais classique, mais jolie, je dis, mais avec Yves Saint Laurent et Givenchy.
Un peu trop là.
Oui, c'était toujours, ils ont toujours respecté.
Oui.
J'avais une fois un couturier qui chaque fois qu'il montrait quelque chose, j'ai dit mais je suis désolée, il faut enlever les boutons, il faut enlever les petits nœuds. Il se fâchait et finalement on n'avait pas travaillé ensemble.
On poursuit. Pourquoi les voyages de Barbara Hendricks en Allemagne peuvent entraîner des confusions?
À cause de son nom.
Oui, mais pour quelle raison?
Il y a un chanteur homonyme.
Chanteur, non, c'est une
Chanteuse
femme, mais non,
homonyme.
Non plus.
C'est pas Jimmy quand même.
C'est pas Jimmy, mais.
Il y a une sportive qui s'appelle ça.
C'est pas une sportive, mais
une
en tout cas. Absolument, Fred, dis donc. Fred.
C'est en 2019, l'année Ségriste.
Ouais, incroyable. Vous avez.
J'ai des forces qui m'habitent et qui me parlent.
Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît.
C'est l'effet Barbara Hendricks. Barbara, vous avez une homonyme en Allemagne.
Exactement.
De qui s'agit-il?
C'était l'ancien ministre de l'Environnement, Barbara Hendricks.
Pas mal.
Oui.
Vous l'avez rencontrée?
Non, pas encore.
Pas encore?
Non.
C'est un projet potentiel?
Oui, c'est un projet. Oui.
Mais elle donne des concerts?
Je crois pas.
Il faut l'inviter à un concert. On continue. D'après vous, à quels obsèques de président Barbara Hendricks a-t-elle chanté?
Mitterrand.
Absolument.
À
Notre-Dame.
Agnès. Ex-écho.
J'ai dépanné.
Non, mais il est le seul qui est mort récemment. C'était pas de Gaulle. Hein.
C'est vrai. Vous avez raison.
Moi, j'étais aux obsèques du président Coty.
Qu'avez-vous chanté, Barbara Hendricks, pour les obsèques de François Mitterrand?
Papayou.
Merci beaucoup, Fred.
J'ai chanté le Pied Jésus de Requiem de Gabriel Fauré.
Ouais.
We are à Notre-Dame, mais la veille, j'avais chanté sur la place La Bastille, le Temps des Cerises.
Et comment ça se décide, justement, de savoir quel est l'interprète qui va venir chanter? Est-ce que c'était une demande de François Mitterrand? Est-ce que c'est...
Non, parce qu'il était déjà mort.
Mais... Non, mais il aurait pu prendre ses...
J'imagine... Mais qu'il se relève. En fait, j'aimerais bien que Barbara Hendricks vienne chanter.
J'entends par là qu'on peut préparer ses obsèques. On peut préparer... On peut dire moi pour ma mort. Bah, par exemple,
moi, j'ai une chronique de Daniel.
Voilà. Moi, j'aimerais Freddie Mercury qui chante. Enfin, voilà.
Oui, il viendra.
Il viendra. Il va se déplacer.
Tu sais qu'il va être en retard.
Mais c'est prévu, tu sais. Je lui ai déjà donné rendez-vous.
T'es pas pressé non plus.
Oui, c'était avec mon ami décédé Daniel Toscan de Plantier, qui avait parlé avec Jacques Lang. Et c'est par Daniel qu'ils m'ont demandé. De le faire.
Oui. Et est-ce que vous pourriez refuser? Ça dépend vraiment de l'homme politique ou c'est juste l'honneur à la nation qui compte dans ces cas-là?
Mais c'était une nation, mais c'est aussi une époque qu'il représentait. Mitterrand, il était dans cette génération, les derniers des grands leaders de l'Europe.
Ça sous-tend qu'on l'aime un peu quand même, qu'on l'apprécie?
Oui, on l'apprécie parce qu'il avait ce qu'il a apporté, surtout pour l'Europe.
Ouais.
L'importance pour l'Europe, pour moi, était vraiment très, très grande. Mais aussi au peuple français.
Mm-hmm.
C'était pour l'homme. Et aussi, à ce moment-là, on ne chante pas pour Mitterrand parce qu'il n'entend plus.
Ouais.
On chante pour les gens qui sont encore là. Et c'était le peuple français qui avait perdu un grand père, en effet.
Et ça doit être un moment empreint d'émotion. Comment est-ce qu'on l'aborde? Vous avez chanté sur toutes les plus grandes scènes du monde. Est-ce que là, il y a une appréhension particulière pour un jour comme ça?
Mais il faut dire que les obsèques sont les choses les plus difficiles, surtout si on avait connu. Moi, je n'ai pas connu, j'ai rencontré Mitterrand, mais je ne peux pas dire que j'ai rencontré plutôt sa femme beaucoup, Daniel. Mais... je viens récemment de chanter pour les obsèques de Kofi Annan à Accra. Et vraiment, c'est difficile. Il faut vraiment avoir du recul au moment où on chante. Et après, on peut pleurer après. C'était la même chose pour Daniel Toscan de Plantier. Mais je crois que quelqu'un de la famille, c'est presque trop difficile.
Oui, ça
trop
serait difficile. Impossible à faire, à mener. Allez, une petite dernière, parce que pour l'instant, on est à 2 pour Fred, 1 pour Agnès. Agnès, possibilité d'égalisation. Je dis ça, je dis rien. Une des occupations favorites de Barbara Hendricks aujourd'hui, en ce moment.
Jardinage, cuisine,
couture. Ouais, bravo. Jardinage, mais pas toute seule.
Avec un jardinier.
Avec votre petit-fils.
Ah oui, avec Marlon. Oui, jardinage et cuisine, parce que les deux vont ensemble. Oui. On fait les légumes pour les manger après. Et c'est ça, le miracle de mettre un grain au mois de mars et au mois de juillet, de l'avoir ça sur...
dans son assiette.
Dans son assiette. C'est un miracle qui m'étonne chaque année. Je crois qu'en effet, c'est la nature qui me fait croire en quelque chose qui est plus grand que moi, qui est dans un esprit. C'est tout ça qui est dans la nature qui dit que ça vaut la peine de lutter.
C'est ça, c'est encore un discours militant. C'est ça que j'aime beaucoup avec vous, Barbara Hendricks. C'est tout fait sens, tout est très cohérent et tout se relie. On en vient donc justement à cet album The Road to Freedom, Barbara Hendricks and Her Blues Band, avec un certain nombre de titres que vous allez sans doute reconnaître forcément. Alors Barbara, forcément, je commence en triomphe comme ça avec Nina Simone. Dans cet album, il y a tout un tas de titres. Pourquoi? Donner quelle envie? C'est quoi l'idée de cet album?
Mais d'abord, c'était... mon agent en Espagne m'a demandé de participer à un festival de gospel. Et moi, je lui ai dit, mais j'ai pas vraiment de gospel dans mon répertoire. Ce que j'avais plutôt, c'était les Negro Spirituals, qui était la musique folklorique des esclaves. Le gospel est la musique qui est venue dans les années 30.
Mm-hmm. Le Negro Spiritual que vous chantiez enfant.
Enfant à l'église, oui. Mais, et avec les instruments, j'ai les instrumentistes géniaux qui jouent. Ça, c'est Max Schultz qui joue la guitare. Et finalement, j'ai dit, OK, je vais voir qu'est-ce que j'ai dans mon répertoire. J'avais fait Amazing Grace. Et finalement, quand je commençais à mettre la musique ensemble, j'ai réalisé qu'il avait quelque chose en commun. C'était la musique qui faisait partie de la musique qui a soutenu la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, qui menée par Martin Luther King, mais qui était inspirée par beaucoup de femmes. Donc, on connaît pas tous les noms, mais il a bien sûr Rosa Parks, mais je veux dire qu'il avait beaucoup de femmes qui ont travaillé et qui travaillent toujours. Moi, je peux même dire qu'aujourd'hui, c'est les femmes noires américaines qui un peu sauvent la démocratie américaine aujourd'hui, parce qu'elles, à c'est Suisse, non, à 99% ne soutient pas le président Trump.
Ouais. Ah ouais. Cet électorat-là, Trump n'a pas réussi à avoir.
Elles ne sont pas dupes, quoi.
Ouais. Et c'était une façon aussi de rendre hommage à toutes ces femmes, à tous ces hommes.
À tout cette lutte. Mais l'idée était une idée historique de montrer cette époque. Mm-hmm. Je ne savais pas qu'on allait arriver aux États-Unis, mais aussi ici en Europe, avec ce montée du populisme, avec un besoin de renouer à ces valeurs d'amour et la lutte contre l'injustice.
Et tous les titres de cet album, là c'était « I wish I knew how it would feel to be free », tous ces titres finalement sont des messages. J'ai envie de vous faire entendre « Take my hand ». Là voilà. Pourquoi ce titre, Barbara?
C'était chanté par la grande Mahalia Jackson aux obsèques de Martin Luther King. Et c'est un morceau qui me touche toujours. Et c'est même quand je chante, je dois aussi avoir un certain recul que je ne chante pas pour moi.
Oui.
Parce que sinon, ça devient petit et personnel. Depuis mon enfance, c'est un morceau qui m'a vraiment touchée, qui me dit que au moment le plus difficile, je ne suis pas seule.
Mm-hmm. Non, c'est vrai que c'est très très beau. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cet album, c'est aussi le lien que vous faites entre un texte très important que je crois que vous portez toujours sur vous, c'est la Déclaration universelle des droits humains.
Oui, vous en parlez, ça dans mon sac.
Vous en parlez toujours dans votre sac à main. Oui. Alors on peut se dire comme ça, c'est une posture, mais on comprend davantage quand on lit un peu plus votre histoire personnelle. Il y a un texte dans ce livret, un texte aussi que vous lisez, que vous donnez à entendre dans l'album. C'est dans le dernier morceau, Oh Freedom. On entend vos mots en anglais.
We shall someday.
Et vous faites un parallèle.
Ce que je dis, qu'il a 70 ans,
ouais,
le 10 décembre 1948, que l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé et adopté la Déclaration universelle des droits humains. Article numéro 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
The 10th of December,
c'est ça que j'ai.
1948.
Ouais.
The General Assembly of the United Nations proclaimed and adopted the Universal Declaration.
Et vous êtes née la même année, Barbara Hendricks, le 20 novembre. Dans l'Arkansas,
oui.
Et vous faites un parallèle entre ce texte, votre naissance, parce que finalement, vous êtes née citoyenne américaine à moitié, c'est ce que vous racontez.
Ah oui, à moitié, parce que je suis née quand la partie des États-Unis où je suis née était sous les lois de l'apartheid, le Jim Crow laws, qui avait duré 100 ans.
Oui, 1896.
Oui. Et quand je suis née, et 20 jours après, ils ont fait la déclaration des droits humains. Mais mes parents et mes grands-parents, parce que je suis née chez mes grands-parents, n'étaient pas du tout au courant de cette déclaration. Mm-hmm. Parce que moi, je suis née presque comme un réfugié chez moi. Vous savez, dans la Constitution des États-Unis, un esclave était considéré d'être trois cinquièmes d'un être humain.
D'un individu entier, entre guillemets.
Et c'était la raison, c'était pour que les gens dans les États du Sud, quand ils ont fait le census, quand ils ont compté la population, pour qu'eux, ils pouvaient recevoir plus d'argent et plus de représentation, ils ont demandé de compter un esclave, pas comme un être humain entier, mais 3/50 d'un être.
Et vous racontez des anecdotes comme ça, enfants, où des commerçants peuvent fermer la porte de leur boutique pour ne pas vous faire entrer.
Ouais.
Comment on n'assistait pas, on montait pas au même endroit dans le bus. Vous l'avez vraiment vécu en fait. On a la sensation.
Ah oui, moi j'étais dans une communauté qui était totalement ségrégée. Ouais. On pouvait acheter à manger dans certains restaurants, mais on pouvait pas rester. Comme une glace par exemple. Mais on peut pas rester et manger sur place.
C'est un peu la ségrégation qui a inventé le takeaway.
Oui.
C'est ça.
Ouais, peut-être.
Finalement, il y a du bon, c'est ça que tu veux dire, Daniel, si je vais au bout de l'idée.
Mais...
Non, c'est juste une constatation.
Mais au moins, dans le takeaway, il avait une sorte d'égalité. Mais même une fontaine d'eau qui en avait. Et c'était la responsabilité des parents de prendre un enfant, un petit enfant qui a soif, qui veut de boire et dire non, tu n'as pas le droit de boire ici. Parce que c'est white only.
Et on comprend mieux votre engagement quand on entend cette chanson notamment.
We shall not be moved. We shall not be moved like a tree planted by the water. We shall not be moved.
Alors d'où vient Barbara Hendricks cette envie? On connaît votre répertoire classique, on connaît votre carrière. C'est pas le premier album où vous abordez le blues, vous en avez déjà commis un en 2015. Pourquoi cette envie? Comment ça se matérialise chez vous?
Mais d'abord, comme j'ai commencé au festival de jazz de Montreux, avec le jazz qui était... pas l'intention, c'était juste une invitation de Claude Nobs de faire un hommage à Duke Ellington.
C'est lui qui vous met le pied à l'étrier,
oui,
Claude Nobs. Ouais.
Mais j'avais tellement aimé l'expérience que je voulais continuer, mais j'étais débutante et une élève. Je commençais avec les compositeurs.
Parce que le blues, en fait, il faut expliquer que c'était un peu la musique du diable. Votre père qui était pasteur en Arkansas.
Oui, c'était un peu interdit à la maison
interdit.
De blues. Mais... comme je dis, j'ai commencé avec les compositeurs, avec Gershwin, avec Ellington, avec Cole Porter. Et après, je dis, mais si je vais aller vraiment dans cette musique, il faut que j'apprenne un peu sur ce blues que j'ai entendu, mais je connais pas vraiment. Et c'est là que j'ai commencé de regarder, écouter le blues, mais aussi des bluesmen qui étaient découverts par Alan Lomax dans les années 30, Son House, Reverend Gary Davis. Les gens que j'ai jamais entendus. Le premier, c'était une sorte d'éducation pour moi, d'apprendre. Mais une fois que j'étais là-dedans, j'avais envie de continuer.
Ouais, c'est un virus, en fait.
Ouais.
Ça y est, vous êtes piqué.
Oui, totalement.
Mais ce qui est formidable dans cet album, c'est qu'il est représentatif de tout un héritage lointain et très présent. C'est-à-dire, il y a des négros spirituels, bien sûr. Il y a le blues, qui était un chant protestataire, mais protestataire, j'allais dire, pas directement. C'est-à-dire, ça exprime la faim, la misère. misère, le chômage, même les catastrophes naturelles que subissait la communauté noire plus que la communauté blanche. Et puis après, il y a les chants protestataires, c'est dans les années 60. Oui. Et ce qui est formidable dans votre album, c'est qu'il y a tout cet aspect-là. Et par exemple, dans le medley pour les enfants réfugiés, Medley for Refugee Children, il y a Summertime de Gershwin, qui est disons un compositeur classique. Il y a Sometimes I Feel Like a Motherless Child, qui est un traditionnel. Et puis, il y a le texte d'une jeune poète d'aujourd'hui, Wachenheir, très 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 beau texte, s'appelle Home, et Wachenheir, c'est une jeune poète d'aujourd'hui, et je voulais savoir comment vous l'avez découverte, parce que elle est difficile de trouver ses livres en France, ça a été traduit juste un de ses recueils de poèmes, mais comment vous l'avez connue, parce que je crois que Beyoncé, par exemple, a fait un album, enfin une vidéo avec elle.
Oui, moi j'ai appris ça après, mais... je ne sais pas comment je l'ai trouvée. Si j'avais lu quelque chose sur elle, elle est d'origine somalienne, elle est anglaise.
Elle est arrivée à 3 ans. Oui,
oui,
en
mais
Angleterre.
Elle est en Angleterre et je crois que j'avais lu quelque chose probablement dans le Guardian sur elle. Et quand j'ai vu le poème, j'ai dit ah, il faut que je, oui, j'ai besoin. En plus, souvent quand je fais des événements pour l'HCR, c'est ça que je fais. Je fais ce medley avec ce poème qui touche
Home.
Home, oui.
Un poème sur les réfugiés, c'est un des plus beaux textes qui existe, et il est, j'allais dire, c'est une poésie très accessible. Ça me fait penser au texte de Victor Hugo, par exemple, de Révolte de Victor Hugo. C'est un texte de révolte, de protestation, mais qui n'est pas dans le pathos, qui n'est pas militant au sens racoleur, si vous voulez.
Oui, qui parle de personne ne quitte sa maison à moins d'être chassé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais pensé faire jusqu'à sentir le menace de la lame contre le cou. Personne ne pousse ses enfants dans un bateau sans sentir que la mer est plus sûre que la terre.
No one leaves home unless home is the mouth of a shark. No one leaves home unless home chases you, fire under your feet, hot blood in your belly. It's not something you ever thought of doing.
C'est les choses.
Et on quitte pas sa maison sauf quand ta maison te dit de partir.
Oui, exactement, c'est ça, exactement. C'est la maison qui dit bon, il faut partir maintenant. Et voilà, j'ai eu cette idée de mettre à faire un sort de sandwich au milieu de Summertime qui est un berceur pour un enfant.
Voilà.
Et Sometimes I Feel Like a Motherless Child.
Alors ça s'écrit Warsonshire, ça s'écrit W-A-R-S-A-N et S-H-I-R-E, parce que c'est vraiment un très grand auteur, très jeune, et qui fait des textes absolument magnifiques.
Barbara Hendricks est avec nous pour The Road to Freedom avec un blues band, c'est chez Arte Vérum. Père Albert, cet album, c'est un grand succès, mais...
J'arrive, Albert Albo est parti.
Je l'ai chassé.
Mais écoutez, mon cher Daniel, l'album de Barbara Hendricks rencontre en ce mois de janvier un vif succès, tout simplement parce que c'est du Barbara Hendricks. Et si Barbara Hendricks a chanté les romantiques, Leïla l'évoquait tout à l'heure, Schubert, Brahms, Schumann, avec passion, Ravel, Fauré, avec subtilité, Mozart, bien sûr, avec un brio incomparable, eh bien, dans le blues et le gospel, Barbara Hendricks, fidèle héritière d'un patrimoine musical aux sources de la musique noire, tissée de douleur, d'espérance et de révolte aussi, révèle toute la profondeur de son âme, toute sa lumineuse générosité, et sa voix éveille au fond de nous l'émotion vraie qu'une artiste authentique, magnifique, a le don de faire éclore. C'est trop beau, je vais à France Musique.
Non, restez ici.
Ici, je me gâche, je le sens.
Non. Je suis sûr qu'il y a autre chose à dire, mon père.
Après des propos aussi pertinents, que pourrais-je dire de plus?
Rien de plus? Bon, ben merci, Père Albert, allez à France
Musique. Attendez, Daniel. N'en profitez pas pour vous débarrasser de moi. À bon compte,
ben,
je pourrais bien... Tais-toi.
Vous pourriez bien quoi?
C'est mon moment. Et je pourrais bien, abdiquant toute miséricorde, balancer ce que vous avez dit à JNB, notre rédacteur chef, le gars de Coulommiers qui se cache là-bas derrière la vitre. D'ailleurs, ben, c'est ce que je vais faire. Mais comme je ne suis point doué pour l'imitation, comme mon ami Albert Algo, l'imitation vous concernant animalière, Daniel, je vous propose de répéter vos propres propos. Donc, ah, voilà okay. ce que vous avez dit.
Allez-y.
Qu'est-ce qui se passe, GNB ? Je ne te reconnais plus. Depuis que Nagui est parti, je n'ai plus le même. Tu n'as plus le même visage stuméfié, ces ratiches cassées.
Parle moins fort. Parle moins fort, Daniel, parle moins fort. Non, tu dois enchaîner, là.
Oui, oui, mais j'essaye de parler doucement. Tu n'as pas à avoir peur, GNB. Je te dis que Nagui est parti. Il est parti loin, très loin, sur son yacht, en or et en bois de caviar. Il ne peut pas t'entendre. Et ça se voit à la programmation qu'il est parti. Enfin une émission, une invitée, une vraie chanteuse, une grande chanteuse. Pff, quel changement.
Je t'en supplie, parle moins fort, Daniel. Nagui pourrait nous entendre. Tais-toi, parle moins fort. Voilà, cher Barbara Hendrix, comment se prépare la bande originale dans la terreur. Dans la terreur, certes, mais dans le respect des grandes chanteuses.
Merci, bravo.
France Inter. La bande originale.
Barbara Hendrix. Summertime. Dans quelles conditions vous avez enregistré cet album, Barbara ?
C'était il y a une année, presque, au Festival La Folle Journée.
De Nantes ?
De Nantes,
c'est
oui.
ça, en public ?
En public, oui.
Ça aussi, c'est une pression supplémentaire.
Ah oui, j'ai l'impression, parce qu'à Nantes, à La Folle Journée, on a que 45 minutes et on nous avait demandé s'ils pouvaient nous donner une heure, parce qu'on avait dit, mais pourquoi pas enregistrer. Et là, c'était un peu dans les solos des musiciens, c'était un peu difficile parce qu'on ne peut pas les couper une fois qu'ils commencent parce que c'est génial. Tout le monde était un peu discipliné sinon, on serait obligé de le couper. Aussi, il avait des gens derrière la scène qui attendaient à partir de les 60 minutes. On les sent.
Ça approche.
Mais quand ils ont entendu, et puis l'orchestre.
Près de la porte parce qu'ils ont tout un orchestre de fait entrer après. C'était un peu le stress pour le temps, mais on a toujours des publics à La Folle Journée extraordinaires. Ouais. Ouais.
On n'a pas cité votre blues band. Ah, ouais. C'est Mathias Algotsson, Max Schulz et Ulf Englund qui vous accompagnent. Vous les avez choisis. Comment aussi ces partenaires?
Bon, j'avais travaillé avec Mathias depuis très longtemps, sur mes premiers... premier disque de jazz, mes premières tournées de jazz, quand j'avais fait avec le Magnus Lindgren Quartet, c'est le premier Barbra Sings the Blues, je crois, et je continuais avec Mathias, mais maintenant c'est presque 15 ans. Et Max Schulz, quand j'ai commencé à faire du blues, je dis, j'ai besoin d'un guitariste blues. Et Max, il est vraiment une légende en Suède, il est vraiment génial. Et le troisième, c'est parce que quand j'avais des petits concerts pour l'ONU, pour l'HCR, qui étaient payés, j'avais demandé de m'accompagner parce que c'était son hobby de jouer la guitare. C'est mon mari qui joue le steel guitar.
Ah, il joue bien.
Et il joue aussi. Et c'est lui qui avait tous les jobs qui n'étaient pas payés. Mais on avait un répertoire le medley pour les enfants.
C'est de l'exploitation, ça, Barbara. Hein, c'est de l'exploitation, Barbara.
Non, c'est de l'amour.
Oui, c'est l'amour. Oui.
C'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Donc vous l'avez entraîné avec vous.
Oui, oui.
C'est
et
ça.
En plus, il fait, parce que lui, il fait la lumière. C'est son... Ah, et ce qui demande de faire, c'est de faire la lumière. Il fait ça de la scène. Il a son contrôle là à côté. Il joue et après il fait des.
Ah, c'est l'homme orchestre en fait, ça. Oui. Il a tous les talents.
Oui,
et
oui.
Voilà, la bande de Barbara Hendrix vient de nous être présentée. Et bien, nous aussi, notre bande, on doit continuer. C'est avec vous, Agnès Hurstel, elle a tous les talents.
Bonjour, bonne année. En ce début d'année 2019, je renonce à la cigarette, à la viande, au lactose, au gluten, au sulfite, au Nutella, au sucre, à l'huile de palme, au gras, au sel, au bonheur, au plastique, au chou kale, à la kétamine, à Deliveroo, au Malibu Coco, au mauvais vin blanc, celui qui fait mal à la tête, à la fête de trop, à Eddy de Préto, au pipi entre les voitures, aux voitures, au diesel, au kérosène, au carburant, au déplacement professionnel, au voyage. Je renonce au rire, rire, aux larmes, aux blagues, aux mauvaises blagues, aux blagues communautaires, sectaires, grossophobes, homophobes, misogynes, débiles, racistes, machistes. Je renonce à l'aluminium aussi, j'allais l'oublier. Je renonce au vieux porc et à YouPorn, à Pornhub, à Xvideo, à UGs, RedTube, Jackie et Michel, PornTube et PornHD. Je renonce aux notifications de Sushi Shop, de Bouygues Télécom, d'EasyJet, de mon ex, de Pôle emploi, du Parisien, du Figaro, du Monde en général. Je renonce aux émoticônes comme suppléant de mes émotions, surtout à l'emoji caca, douce pensée pour Marina. J'arrête la pilule, j'arrête les tampons, les moon cups, les boutons d'acné, j'arrête les implants mammaires, j'arrête ma mère, j'arrête les conversations avec ma mère, les engueulades avec ma mère, les Noëls avec sa mère, son père, ses sœurs, son frère et sa dinde. J'arrête la bûche, je déteste la bûche. J'arrête les fruits secs, les bananes trop mûres, les avocats pas assez mûrs, les avocats de plus de 38 ans, les experts comptables en doudoune sans manches, les start-upers en scooter trois roues, les graphistes en freelance, les menteurs, les drogués, les vilains, les déprimés, les comédiens, les chroniqueurs, les mythos, les fake news, Twitter, BFM, le Gorafi, Pure People, Mediapart, Facebook, j'arrête Snapchat et ses filtres de petits chatons éberlués. J'arrête Instagram, surtout le compte Instagram de Vincent Cassel et Tina Kunakei. Je ne les connais pas, je ne devrais pas les suivre comme ça. J'arrête aussi de commenter les vidéos de Juliette Armanet. J'ai l'impression que je la connais et que nous sommes amis. Or, je ne la connais pas et nous ne sommes pas amis. C'est le problème avec Instagram. J'arrête de gaspiller, j'arrête la méchanceté, j'arrête le cynisme, la langue de bois, la langue de pute, les putes, les jeux de mots, les jeux vidéo, les moi-jeux, les jeux de main, les mains au cul. J'arrête le métro, les taxis, les Uber, les G7, les motos, les scooters, je me mets au vélo. J'arrête le pétard, la weed, Netflix, le poppers et la levrette sans âme. J'arrête la méditation, les ostéos dans le 16e, les ostéos dans le 17e, les ostéos dans le 5e. J'arrête les kinés partout dans le monde, les naturopathes, les sophrologues, les astrologues, les horoscopes. J'arrête la presse féminine, le maquillage, la séduction, le gloss irisé, rose et rouge, les débats télévisés, les avis tranchés, les engueulades, les prises de tête, les crises de couple, le couple parfait. J'arrête la culpabilité, la manipulation, la sourde oreille, les ultimatums, la jalousie, les airs de chien battu, les larmes de crocodile, la poule mouillée, et je me tais. J'arrête de parler. Non, ça je sais pas faire. Bonne semaine, bonne année, à l'année prochaine.
Et bon courage.
Bravo.
Bravo. À bientôt.
La bande originale.
Ça donne envie de crever, en fait. Ça donne envie de crever.
Je suis total déprimé.
C'est ça,
coucher. Ah non, c'est bon.
Voilà, c'est la liste.
Il doit
des...
rester des trucs. Il doit rester.
Après, les j'aime, j'aime pas, c'est mais... les j'arrête. J'arrête. Qu'est-ce que vous arrêteriez, vous, Barbara?
Je sais pas, il y avait tellement de choses.
La kétamine.
Ah oui, non, mais.
Non, je crois que c'est pas complètement le trip de Barbara.
Un peu moins de sucre, mais le chocolat, jamais.
Ouais. En fait, on devrait faire la liste, je vais continuer.
Ouais, c'est ça.
Ouais, exactement.
On est beaucoup plus glauque. Barbara Hendrix est avec nous pour ce Road to Freedom avec Our Blues Band chez Arte Verum. Barbara, nous allons revenir en musique sur quelques dates importantes de votre vie. On commence en 1974. Aretha Franklin, Until You Come Back To Me.
Forcément une BO avec Barbara Hendrix, on se dit qu'on va sortir du bon son. On a pris 74 pour évoquer vos débuts sur scène. Pourquoi avoir choisi Aretha Franklin, juste petit
Parce
crochet?
Parce que je choisis toujours Aretha Franklin. Hein?
C'est un choix évident?
Ah oui, parce qu'elle est... Moi je l'ai rencontrée, j'ai même chanté avec elle.
Ah ouais?
Elle était géniale, c'était une énorme tristesse quand elle nous a quittés, mais... oui, quand je, parce que pour cette jeu vous avez me fait faire, j'ai dû regarder les top Billboard de chaque année. Et j'ai dit, bon, si Aretha est dedans, certainement j'écoute Aretha.
Et elle vous accompagne comme ça au quotidien? C'est quoi votre playlist?
Oui,
vous écoutez
souvent,
beaucoup de musique,
souvent. Ouais. Mmh. Pour le premier danse de mon mariage, c'était You Make Me Feel Like a Natural Woman, bien sûr. Et toujours.
Et c'est beau.
Après 22 ans.
Donc revenons en 74, vos débuts sur scène à l'Opéra de San Francisco. Vous enchaînez très rapidement à New York pour votre premier récital. Quand on parle de votre carrière, on parle d'une ascension fulgurante. Pourquoi ça?
Je crois qu'avec le temps, ça, les gens voient ça comme ça, mais pas du tout. Au début, j'avais un engagement parce que tous les deux mois, tous les trois mois, parce qu'en plus, j'avais besoin de tout apprendre. Tous les rôles d'opéra, ça prenait du temps. Et surtout, au début, beaucoup plus de temps, ouais. Parce qu'il avait des langues différentes. Ouais. Et aussi, d'apprendre par cœur. Aussi, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de musique contemporaine qui était très difficile à apprendre. Et bon, ça a commencé pour moi, j'avais un rythme qui est assez bien, que j'étais jamais découragée, mais pas assez vite, qui est de perdre ma propre boussole.
Ouais, ouais.
Je me suis restée avec mes pieds bien fermes.
Et quelle langue étrangère vous donnez le plus de mal ou vous résiste encore un peu aujourd'hui?
Au début, l'allemand était très difficile, ouais. Parce que, bon, en plus, en avant, je dis, moi, je reste toujours mathématicien.
Mm-hmm. Je cherche une certaine
perfection dans le sang de la langue. Et je me souviens, je crois qu'il avait à peu près 10 ans après que j'avais commencé, j'avais fait un récital à New York. Et après, j'ai réalisé qu'en effet, la langue était dans ma bouche.
Mm-hmm.
J'en avais plus besoin de vraiment articuler, de faire
des efforts.
Ouais. Oui. Et ça, c'était une joie.
Ça
une
devient joie naturel.
Oui. Et en plus, moi, j'aime la poésie. Et pouvoir chanter la poésie, c'était pour moi un énorme plaisir. Toujours un énorme plaisir.
Il y a une femme importante dans votre cursus, c'est votre professeur.
Oui,
qui était votre professeur,
le seul professeur de chant que j'avais, oui.
Une sorte de fidélité comme ça. Pourquoi ne pas avoir changé? Parce que c'était...
Ah, après sa mort, cherché d'autres. Mais après les leçons, j'étais triste. Et c'était le contraire avec elle. Après la leçon, j'étais inspirée. J'avais envie de retourner étudier, de refaire ce qu'on avait fait pendant la leçon. Et avec les autres, j'avais juste envie de pleurer. Je dis, mais je sentais un peu vidée.
Ouais.
Et bon, finalement, à l'époque, j'étudiais aussi un peu de zen. Et là, j'ai lu quelque part qu'il y a un moment où l'élève doit venir son propre maître. Mm-hmm. Et j'avais peur parce que je considérais que je connaissais rien du tout de la technique du chant.
Ouais.
Quand des fois je fais les masterclass et moi je dis aux élèves, moi j'enseigne pas la technique parce que je connais rien du tout sur la technique vocale. Mais je sais comment moi je chante,
ouais.
Je sais comment ma voix fonctionne, mais je ne sais pas si je peux transférer ça à quelqu'un d'autre.
On passe à 1999. Lauryn Hill, doo-wop.
Lauryn Hill qui était en concert il y a pas si longtemps, c'était au mois de novembre, fin novembre à Paris.
Ça s'est pas hyper bien passé.
Pas le premier soir, le deuxième soir mieux. Le premier soir, elle a dû faire attendre à peu près 2h30, 3h le public. Et ouais, ça a été un peu complexe. Pourquoi Lauryn Hill?
Ah oui, parce que qu'on avait fait avec le Fugees, je dis bon, les réfugiés. Ah oui, ça, mais en plus, j'aimais beaucoup sa musique. Mais il faut dire que maintenant, on commence à être dans les années où j'étais maman, que j'écoutais pas vraiment les tubes, plutôt j'étais avec les bébés, mon travail. Mais je me souviens de Lauryn Hill et c'est pour ça que je l'ai mis pour cette année.
C'est vrai que c'est un très très bel album et en 99, vous faites partie du jury du Festival de Cannes qui était présidé cette année-là par David Cronenberg. Quel souvenir vous gardez de cette expérience?
J'étais étonnée de la qualité des films.
Ouais.
Parce qu'il a, elle a peut-être plusieurs Cannes, mais la partie avec le jury, c'est une partie que le public ne voit pas. Se lever tôt le matin pour voir 2, peut-être 3 films par jour. Et c'était extraordinaire. Et moi, je venais pas du milieu de cinéma, je sentais pas du tout obligée d'aller le soir dîner avec tel ou tel. Même que mon mari, il m'a dit que c'est vraiment dommage qu'on n'a pas accepté l'invitation de Hugh Hefner sur son yacht. Mais, mais c'était un travail qui prenait beaucoup d'énergie. Je crois que, bon, dans le jury, moi, j'étais le plus matinal parce que moi, je me lève tôt. Mais les films, après le déjeuner...
Ah, c'était dur de tenir. Hein.
Oui, moi, je dis, bon, il y a certainement un équilibre.
Oh, dans le noir, on peut dormir.
Oui, mais parce que Jeff Goldblum, il vient de se réveiller vers 2h l'après-midi. Et je dis, bah, lui, il va regarder le film l'après-midi pendant que je m'endors.
Vous faites un relais, ouais.
Mais c'est une expérience extraordinaire. Et à l'exception de la montée de marche. La première soirée, on était plutôt dans le noir en train de voir des films extraordinaires et émouvants.
Vous avez joué dans deux films d'opéra, notamment un, vous racontez cette anecdote, La Bohème de Luigi Comencini, qui vous avez choisi pour incarner Mimi. Et lors d'une conférence de presse, une question assez très étonnante délicate a été posée. On a demandé, mais vous avez choisi une Mimi noire.
Oui, oui, à Comencini. Ouais. Ah oui, oui, il a dit oui. Ah, elle est noire. C'était ça.
Il dit qu'il n'avait pas remarqué.
Oui.
C'est étonnant, ça, encore, parce que...
C'est la meilleure réponse.
Oui, bien sûr. Ouais.
Non, mais c'était génial. Ouais.
Et est-ce que vous, à ce moment-là, ça vous a blessé?
Non, mais j'étais pas au courant. C'est Daniel qui m'a raconté ça après.
Toscan du Plantier.
Oui, oui.
Mais c'est étonnant, quand même, d'avoir encore ce genre de réaction-là.
Oui, mais je crois aussi... En Italie, pour eux, c'est Puccini, c'est italien, c'est, oui, ça les appartient. C'était un journaliste italien qui l'avait demandé.
On peut être noir et italien, a priori.
Ah oui, non, mais j'étais à l'opéra. Je me souviens, quand j'étais enceinte, il avait le maître en scène qui avait envie de mettre sa copine à ma place, Michaela. Il a dit, ah oui, mais elle est enceinte. Après, je dis, mais même enceinte, je suis plus mince que beaucoup de mes collègues.
Ah ouais, on défend le morceau.
Et j'ai dit, en plus, je suis enceinte, je suis pas malade. Finalement, j'ai chanté, il m'a pas remplacée.
Et justement, qu'est-ce que ça change de chanter quand on est enceinte? On parle souvent, les artistes lyriques parlent du rapport à la voix dans le corps, à la vibration. Est-ce que là, quand on est deux...
Ah oui, c'était bien parce que j'avais l'impression que je n'étais pas seule.
D'être soutenue.
Ah oui. Non, mais c'était bien. Je vous dis, je portais bien pour mes grossesses. Je n'ai pas eu le problème. Mais oui, c'est... Pour Michaela, j'avais un petit corbeille et chaque fois que je tournais, parce que c'était pour la télé, quand je tournais vers la caméra, j'ai mis le corbeille à droite. Quand je tournais à gauche, j'ai mis le corbeille
pour cacher le ventre.
Pour cacher le ventre, parce que ça change la lettre de Michaela à Don José. Oui. S'il est enceinte,
oui, oui.
Il a d'autres choses dans la tête.
Oui. Une portion alimentaire,
oui,
s'il te plaît.
Fred, t'as l'air au courant.
Il a d'autres choses.
Donc le Festival de Cannes, à part vous avez refusé la soirée de Hugh Hefner, le patron de Playboy, à votre mari, ça s'était bien passé.
Ah oui, c'était très bien. Bon, il a des choses qui, je crois qu'on n'a pas le droit de discuter. Bon, les délibérations, ouais. Ça c'était intéressant. Mais un jour, je vais demander à Gilles Jacob si je peux le raconter.
Allez, en passant, 2002. Alors là, on n'a pas demandé votre avis, c'est nous qui avons choisi le titre. Rappelez-vous, Liane,
c'est vrai.
On a choisi pour
en
vous.
En 2002, Barbara, vous êtes élevée au rang d'ambassadrice honoraire à vie de l'UNHCR. Une mission à laquelle vous vous consacrez depuis fort longtemps maintenant. Et puis, dans les interviews, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous poussez un petit coup de gueule sur les tout ce qui concerne le bal de charité et autres.
Alors, on rappelle que c'est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Oui, exactement.
Vous avez poussé un petit coup de gueule sur justement les actions dites caritatives ou les qui sont menées par des grandes vedettes et des grandes
People
stars.
People Charity.
Ouais.
Moi, je crois que...
Qu'est-ce qui vous a fâché à l'époque?
On a si peu de temps quand on parle de la situation des réfugiés, que si on ne peut pas porter dans le peu de temps que les médias nous donnent le vrai message, si le message est autour de la personne, autour de ses affaires et des choses, ça ne nous aide pas.
C'est contre-productif de mettre une vedette parfois.
Et ça n'a rien à faire avec la sincérité de la personne.
Bien sûr.
Mais je dis, mais il faut être efficace parce que c'est déjà difficile. Le message est compliqué. Tous les problèmes de réfugiés sont politiques. Ça veut dire que ça demande une solution qui est politique. Et pour une solution politique, il faut une volonté politique. Et c'est ça qui manque la plupart du temps. Et c'est plus difficile de parler de la situation de réfugiés que de parler, par exemple, pour UNICEF, de vaccination pour les enfants, la nourriture pour les enfants. Parce que ça, c'est vraiment une question de droit humain.
Ouais, et les politiques sont décevants à ce regard, à ce titre-là.
Oui, parce qu'il manque la volonté. Je dis que
et puis parce qu'ils s'en servent aussi. Ils se servent des réfugiés pour alimenter des peurs aussi.
Oui, 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 certains, oui, exactement. Et mais je crois que cette année, c'est une année pour le, Union européenne d'avoir une vraie politique d'immigration qui est juste et qui est humain.
Ouais. Vous êtes dur, vous dites même, j'ai l'impression d'un fléau de médiocrité chez les politiques.
Mais il en a. Vous non, avez la preuve du contraire.
Je
oui.
faisais non, que non, 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 non. Avec grande admiration.
Non, non, on a même la preuve plutôt qui va dans votre sens. Hein.
C'est tout l'esprit de cet album, The Road. Et nous a rejoint le spécialiste du jour. Bonjour Stéphane Quéclin.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste, critique musical. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur des grandes figures du jazz. Le dernier, c'est Bessie Smith, des routes du Sud à la Vallée Heureuse aux éditions Castor Astral. Et on a aussi le blues, les musiciens du diable. On faisait cette référence-là tout à l'heure par rapport à l'enfance de Barbara Hendrix.
Il avait juste un exemplaire ?
Non, il sera pour vous. Ils seront pour vous tous les deux. Ils seront pour
c'est
vous.
C'est cadeau.
Vous voyez, tout de suite.
Et si vous voulez, je vous les dédicace pendant que vous parlez.
C'est ça.
Avec une dédicace. J'ai une ampoule à la main.
C'est ça. Une dédicace de Daniel, c'est extraordinaire.
Ah, c'est précieux.
Voilà, c'est les éditions Castor Astral. Voilà, on peut le faire passer à Barbara. C'est votre cadeau de nouvelle année. Stéphane.
Ah oui, parce que je n'ai pas eu de cadeau de Noël.
Ouais, voilà. Vous faites une heureuse, Stéphane. Stéphane Quéclin. On parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure, du blues. Mais est-ce que dans l'esprit, c'est très très clair la distinction entre le jazz, le blues ? On parle de negro spiritual. Est-ce que vous pouvez un peu nous orienter ?
Bah, le blues a une particularité, c'est que c'est d'abord une musique rurale. Mm-hmm. Le jazz, c'est plutôt une musique urbaine. Au départ, la musique est la même. Hein. Le jazz, c'est du blues. Il joue du blues. Peu à peu, le jazz va s'en éloigner en créant des formes nouvelles. Bebop, vous voyez. Même Miles Davis dira plus tard, j'aimerais bien revenir au son de tambour à $1.50, au blues aux 12 mesures. Oui. Parce que nous, dans le jazz, on est un peu tombé dans l'abstraction. Or, le blues, c'est concret. C'est quelque chose de très réel, de très réaliste. Hein, il y a du rêve dedans, mais c'est réaliste. Donc, la plupart des grands bluesmen sont nés dans des bourgades campagnardes le long du Mississippi. Donc, Clarksdale, Commerce, Helena, c'est des petites villes. Alors que les grands jazzmen, style Louis Armstrong, Sidney Bechet, eux, sont nés dans les grandes villes.
D'accord. C'est la
distinction. Donc, il y a une très grande différence entre effectivement quand on parle de Strangefoot que Barbara a interprété, Strangefoot part de New York, hein, du milieu progressiste du Café Society. Le blues à l'époque, c'est avant-guerre, est très très éloigné de ça. Le blues est plutôt sur les routes avec une guitare, c'est vocal, c'est oral pratiquement.
Et les origines du blues, alors si on devait dater à peu près pour donner une période, ça serait quoi?
D'abord le blues se lit avant de s'entendre, c'est-à-dire que vous pensez aux notes de Virginie que Thomas Jefferson, donc troisième président des États-Unis au début du XIXe siècle, il avait une propriété en Virginie dont il a été le gouverneur. Et à un moment donné, il fait le parcours, il parcourt sa plantation comme ça. Pour lui, à l'époque, en tant qu'esclavagiste, les Noirs étaient des sous-hommes. Mm-hmm. C'était juste des gens bons à manier la charrue. Et brusquement, il entend un morceau de guitare et des chants. Et il dit dans ses notes, c'est incroyable, ils sont plus doués pour le rythme et la mélodie que les Blancs. Mais on ne sait pas s'ils seraient capables de faire des airs plus compliqués, de plus grande envergure, ou de construire des harmonies plus compliquées. Donc, il découvre le blues, finalement. À l'époque, le mot, il n'y a pas le mot blues en plus. Il faudra attendre un siècle avant que quelqu'un, parce que comme c'est une plainte, c'est assez triste. Et l'idée de dire I've got the blues en écoutant un morceau, un vagabond qui jouait avec une guitare, oui, j'ai le blues. Donc c'est comme ça que le terme a trouvé un nom. Mais pendant un siècle, il a circulé comme ça dans le sud des États-Unis sans du tout avoir de nom, d'appellation et même pas d'enregistrement physique.
Et ça a toujours été un chant de contestation, on le disait tout à l'heure, un chant politique qui accompagnait un petit peu l'émancipation aussi.
Souvent, Big Bill Bronzy disait « Moi, je suis paresseux, c'est pour ça que j'aime bien chanter le blues. » C'est-à-dire que c'est un refus déjà de travailler la terre. C'est un refus de ramasser le coton. C'est un refus de travailler pour des propriétaires blancs. Donc la plupart des grands bluesmen comme Charles Patton préfèrent prendre leur guitare, voyager. C'est dangereux, le voyage est dangereux effectivement à l'époque, mais ils préfèrent finalement risquer leur vie pour voyager le long des chemins de fer, vous voyez, et essayer de vendre un petit peu leurs chansons qu'ils composent comme ça, sur le pouce, dans les pique-niques, les balles, plutôt que de trimer et de se casser le dos à ramasser du coton.
Mais comme les producteurs de disques étaient blancs, souvent le côté protestataire direct contre la ségrégation, contre l'exploitation par des hommes blancs, elle était gommée. Donc c'est plutôt des chants de tristesse, de malheur et de ressentiment et de sentiment.
C'est des chants de tristesse. Et puis bon, pour la contestation, c'est-à-dire que W.C. Handy, par exemple, il compose Memphis Blues pour accompagner l'élection de Edward Crump à la mairie de Memphis, qui est un démocrate. Vous voyez, déjà le blues était un instrument pour essayer de faire changer la politique des villes ou de la campagne.
Et c'est avec Roosevelt,
c'est quoi le secret?
pardon. Ils soutiennent Roosevelt.
Effectivement, oui, tout à fait. Ils sont plutôt démocrates. Oui, démocrates.
C'est quoi le secret d'un bon blues?
Ah bah, le secret d'un bon blues, c'est Jim Hendrix. Si vous prenez Red House, c'est un morceau sorti en 67, et lui, il a tout compris. Il fait plus de trois minutes. C'est très court. Et en fait, c'est une petite boule de feu, compacte, abrasive, très brûlante, très magnifique. Et finalement, il arrive avec ce canevas quand même très raide. Parce que finalement, quand vous êtes un bluesman, vous êtes dans une structure très rigide. Donc, vous pouvez pas être médiocre, mais vous pouvez souvent ne pas être très, très bon. Et Jimi Hendrix, il y en a qu'un par siècle, malheureusement, a réussi avec Red House. En plus, c'est un morceau élastique. Il en a fait 3 minutes dans son premier disque. Et après, il pouvait l'étendre indéfiniment jusqu'à 13, 14 minutes. Et c'était un petit peu un morceau qu'il a souvent joué tout au long de sa carrière. Donc c'est ça le blues, il n'y a pas de mystère, il n'y a que le génie que Hendrix lui a apporté en 67.
Donc on voit la parenté et la filiation avec le rock et avec Barbara Hendrix ça tombe bien. Est-ce qu'il y a d'autres musiques aussi qui ont été influencées par le blues?
Qui ont été influées très peu, parce que finalement des musiques on en a très peu inventé depuis le rock and roll. Il n'y a pas beaucoup de... Alors le blues il est un petit peu partout et nulle part, vous voyez, c'est des gens, il y a des gens de la techno qui peuvent brusquement faire un blues comme ça. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Moi, je cite toujours Clémenceau qui disait « La guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. » Je trouve que le blues est une chose trop sérieuse pour être confiée à des bluesmen. Donc, quelquefois, le blues vient souvent... Bob Dylan a joué des blues formidables, et pourtant, c'est pas un bluesman naturel, parce qu'il y apporte un nouvel émerveillement dans cette musique, quand même, qui a plus d'un siècle d'existence.
Et vous parlez tout à l'heure des bluesmen. Barbara parle aussi des femmes, parce que c'est souvent un peu les musiciennes qui sont les oubliées, les grandes références du blues côté féminin.
Bessie Smith, évidemment. Il y a eu cette période d'ailleurs du blues classique qu'on a appelé entre 1920 et 1929. Alors, il s'avère que la plupart des chanteuses de blues classique ne chantaient pas de blues, et que Bessie Smith était l'unique chanteuse de blues des années 20, la vraie chanteuse de blues.
L'impératrice du blues.
D'ailleurs, elle interdisait à ses collègues et rivales de chanter du blues. Et elle était très violente si par hasard d'aventure elle entendait parler d'une chanteuse qui chantait du blues, elle pouvait la brutaliser, elle supportait pas, parce qu'elle comprenait finalement que cette musique était unique et qu'elle devait être la seule à chanter du blues.
C'est la générosité de l'artiste.
C'est un personnage haut en couleur, parce que vous faites sa biographie, donc Bessie Smith, des routes du sud à la vallée heureuse, vous dites d'elle qu'elle était bisexuelle, noctambule, plutôt portée sur l'alcool.
Il y a une liberté totale, elle se foutait complètement de la prohibition. Complètement, et d'ailleurs, il y a des chansons où elle fait étalage de sa bisexualité, comme Marenay, qui était sa mentor, qui était une femme aussi avec une bouche en or, avec des boas, qui avait une malle de bijoux. Enfin, c'était elle vivait toute sur un grand train, et finalement, elle n'avait aucune limite. Elle pouvait draguer hommes et femmes, boire, elle avait des problèmes aussi avec les hommes, parce que, évidemment, Bessie Smith a eu des problèmes avec son mari, qui a essayé de l'assassiner, qui lui a tiré dessus. Enfin, bref, elle lui a tiré dessus en retour. Bon, il vivait pas très bien à l'époque, donc ça, c'est bon, comme ça, elle était toujours vivante.
Finalement, vous avez une vie beaucoup plus calme,
Le jardin, tu t'es fait comme moi,
le jardinage et les tomates, c'est plus cool, Barbara Hendrix. Vos références en blues, c'est qui pour vous qui habite la planète blues en priorité?
Ah, mais je crois qu'il a des gens qui me touchent beaucoup. Il y en a un qui est Sunhouse, mais il y a aussi une femme qui avait joué Elizabeth Cotton. Et qui avait une façon de jouer la guitare. Moi, je ne joue pas la guitare, mais moi, je suis très touchée par Sunhouse. Et il a quelque chose, et à l'époque, les enregistrements qu'on a, il était assez âgé. Mais aussi, il faut dire que le blues avait vraiment commencé en Afrique. Si on écoute la musique du Mali, cette région, aujourd'hui, on entend un peu des choses qui... les racines... Ah, et comme il avait dit que les gens qui font le blues sont pas nécessairement considérés comme les bluesmen ou blueswomen, parce que cette musique est universelle.
Et justement, dans cet album, The Road to Freedom, on s'en rend bien compte.
Southern trees, southern trees, bear a strange fruit, blood on the leaves, blood in the roots.
swaying in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh, and the sudden smell of burning flesh.
Barbara Hendricks est avec nous pour son album The Road to Freedom chez Arte Verum. Elle est accompagnée de son blues band. Tanguy Pastureau, vous allez nous parler tout à l'heure de la Chine qui est en train d'adopter le principe de note sociale, c'est bien ça?
Oui, c'est comme un permis à points, mais élargi à la vie. Si vous traversez hors passage piéton en Chine, c'est moins 5 points. Si vous écoutez Christophe Maé, moins 7, et ainsi de suite à chaque faute. Ensuite, vous arrivez à zéro et vous avez une sanction. Exemple, vos enfants n'ont plus le droit d'assembler des iPhones, ils sont recrutés par l'usine Samsung, c'est moins bien.
D'accord, donc on développe tout ça tout à l'heure ?
Exactement.
Merci Tanguy, merci également à Stéphane Quéclin.
Merci Stéphane.
Vous apportez vos lumières, merci beaucoup. On se retrouve juste après les infos. C'est le retour de la bande originale, toujours sans Nagui. Oh, il nous manque. Mais non, oubliez, Agnès Surstal est avec nous. Également, Albert Algo, Frédéric Sibis.
Bonjour. Sibis, bonjour.
Tanguy Pastureau d'ici quelques instants. À ma gauche, Leïla Kadok.
Bonjour à tous. Et notre invitée aujourd'hui dans la bande originale, c'est Barbara Hendricks. Bonjour.
Bravo.
Barbara qui vient nous présenter ce nouvel album The Road to Freedom avec her blues band et que vous pourrez aussi retrouver en concert à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Ce sera le 12 février, à Bruxelles le 14 février pour la Saint-Valentin. Voilà, un beau cadeau d'amoureux. Vous serez sur scène avec votre amoureux aussi?
Non, il va faire la lumière.
Il fera la lumière.
Parce que ça, c'est pas le concert de blues, oui. C'est un concert classique.
Musique sacrée et Negro Spirituals. Oui. Et vous serez aussi le 2 mars à Châlons en Champagne, au Capitole. Voilà quelques dates pour vous retrouver sur scène. L'album, la scène, toujours la scène. Impossible de se passer de la scène, Barbara?
Non, pas vraiment, mais, mais j'aime... J'ai la chance d'avoir la santé vocale et de pouvoir toujours chanter. Et c'était toujours un plaisir pour moi de partager cette musique que j'aime. C'est une façon de partager l'amour. I'm singing and praying with my mind.
Woke up this morning fait partie d'un des titres que vous pouvez retrouver sur l'album, mais encore Down in Mississippi. Pour ce très bel album de Barbara Hendricks, her blues band.
Lui aussi, il aime parler d'amour, mais surtout, c'est un salopard, c'est Tanguy Pastureau qui va traiter. Alors Tanguy, j'ai une confession à vous faire. Parfois, je commets de mauvaises actions, vous savez.
Oui, c'est normal, Daniel, parce que vous êtes un être humain constitué de peau, de poils et de chemises improbables, et pas une machine. À l'intérieur de cette carcasse usée de star de la radio publique, bat un cœur qui s'emballe à l'idée de faire des choses déraisonnables pour vous, comme voter à droite, sourire à vos collègues, ou faire un petit peeling. Et on est tous comme ça. Moi aussi, j'ai mes défauts, comme... Enfin, j'en ai. C'est ça l'humanité. On avance, parfois on dérape, on a la même vie qu'une voiture de course au trophée Andros. La seule différence étant qu'aucun pilote ne va s'installer en nous, ou alors pas sans nous avoir au préalable payé un petit mojito pour nous décoincer. Mais le souci, c'est que l'humain en 2019 refuse d'être humain. Fini les odeurs des selles, les éjacs mal gérés, les tapes dans le dos. Pourquoi est-ce que les films avec des bandes de potes marchent si fort? C'est parce qu'il n'y a plus de bandes de potes. Juste des robots coiffés comme Olivier Giroud qui triturent leurs 06 les uns à côté des autres disposés en randonnion. Terminé les petits mouchoirs. Un déj à Arcachon, c'est une instagrammeuse qui photographie ses huîtres. Une blogueuse mode qui shoot un vieux avareuse de marin en se disant ça va bien revenir un jour à la mode cette horreur. Et un influenceur sur Twitter qui écrit Arcachon ça pue la vase mais c'est beau et on voit Obispo torse poil à la plage. Les trois sans se parler. Vous allez dans le métro, chacun est là avec son casque sur la tête, le regard vide. Le rhum à accordéon qui monte sur la ligne 12 massacre la vie en rose pour rien. Personne n'écoute. Nous sommes des générations déjà robotisées, qui pensons tous pareil. Si un gonce sur Twitter dit le contraire de ce que veut la masse, il se fait lyncher. Tel le casting de la comédie musicale Priscilla, folle du désert, s'y décidait de jouer à Kaboul. Mais en Chine, cet immense pays qui, le saviez-vous, accueille la plus grande communauté chinoise au monde. Hein, je ne sais pas pourquoi ils sont tous installés là-bas. Eh bien, c'est pire. C'est pire. Là-bas, le principe de note sociale va être mis en place durant les deux années à venir. C'est-à-dire que là, l'humain, on n'en parle plus. Les gens seront des notes, pas des notes de musique. C'est chose qu'il n'y a pas dans un morceau de David Guetta. Non, des notes sur 20. Puis ensuite, en fonction de ce qu'on fait, on perd des points. Ah ouais. Fumer dans un espace public, moins 4 points. Mal garer son deux roues, moins 5. Imaginez à Paris, si on faisait la même chose, tout le monde aurait zéro. Les trottoirs, ce sont des parkings pour scooters. J'ai vu des mamans lancer leur bébé par-dessus les scooters juste pour pouvoir se déplacer. Et donc, moins on a de points, plus on perd de droits. Parce que le truc est déjà lancé. Hein. Par exemple, on ne peut plus prendre le train. Par contre, celui qui a tout bon, a bien garé son vélo, a pas fait pipi dehors, a pas critiqué les dirigeants, il voyage en première dans un wagon spa.
Mais alors, qui distribue les notes?
Eh bien, c'est le pouvoir. Xi Jinping, le président, c'est comme Macron, mais en tout dur. Chez Marc Dorcel, on veut dire que Macron est au repos, pas l'autre. Donc, ils ont mis partout des caméras à reconnaissance faciale, les gens sont fichés, et si vous traversez en dehors des clous, paf, vous perdez un point. C'est Big Brother ou Big Sister pour les féministes. On m'a dit qu'il y avait eu un épisode de la série Black Mirror à propos d'un système de notation pareil, mais j'en sais rien, moi j'ai du retard sur les séries, là je suis sur la deuxième saison de Chips, hein, très déçu. Chips, je pensais que ça parlait de barbecue, qu'il y avait des merguez, et en fait il y a que des poulets. Alors, la Chine étant une dictature allègrement soutenue par des pays comme le nôtre, on se doute qu'avec le développement de la note sociale, bientôt la sanction, ça va plus être de pas prendre le train. Hein, votre caniche qui lâche trois étrons dans une rue de Shanghai, ce sera perte de 15 points, puis la tôle. Et c'est génial d'en arriver là. Ça veut dire que quelqu'un d'autre se charge à votre place de vous dire tout ce que vous faites mal. Ça remplace le mariage. Donc nous, on se dit, ouais, c'est un truc de chinois. Jamais en France, on aura ça. Et l'autre, il cherche à nous faire peur. Riton, repasse-moi la Valstar. Sauf que nous, c'est pas le pouvoir qui nous oblige. Mais on est tellement vil qu'on se note déjà tous les uns les autres. Le chauffeur Uber, on le note sur l'appli. On a l'impression d'être puissant quand on lui met seulement 1 sur 5 parce qu'il écoutait RMC Info. Et alors, il est peut-être pas allé à l'école, hein. Sur billet Réduc, les spectateurs menottent. Certains mettent 5 sur 5 avec comme commentaire « Quel spectacle éblouissant !» Tandis que d'autres mettent 5 sur 5 en écrivant « Présence scénique jamais vue auparavant ». Au restaurant, on note la petite serveuse pas sympa qui nous a passé à côté de la porte des WC en pleine épidémie de gastro. Comme si chacun devait être au top. Même des précaires payés 800 euros doivent être mielleux, comme les vendeurs de Vuitton qui voient débouler Rachida Dati. Sinon, c'est 2 sur 20 et sur TripAdvisor, il y a marqué « Céline est nulle, 4 minutes pour apporter le vacherin, incroyable que personne ne la pende, cette pétasse !» Mais on n'est pas en Chine, on n'est pas obligé de faire ça. Bien sûr, il y a des employés minables, des taxis cons, des serveurs pas au point, des humoristes qui se cherchent. Et alors, c'est ça la vie, c'est de l'humain, donc ça tient pas la route. Vous croyez que là, j'ai envie de dire Daniel Morin, pas mal, bon lancement, mais la voix, j'aime pas, 9. Leïla, pas super concernée par le sujet, a ri seulement 2 fois, 7. Barbara Hendricks, invitée de marque, formidable, ça change des petites actrices sous coque, 20. Non, j'admets que tout ça est fait de briques et de broc, qu'on n'est pas des robots, qu'on n'a pas à s'évaluer tout le temps. Donc à la fin d'une chronique, je me dis, on a fait ce qu'on a pu avec l'existant. Parce que la vie est une jungle, pas un tableur Excel. Ne nous notons pas les uns les autres, parce que d'autres plus haut placés le feront pour nous bien assez vite.
Bravo. Bravo. La bande originale. Bravo. On te met quand même 10 sur 10 et puis on incite à aller te voir sur scène.
Oui, vraiment, parce qu'il faut se rendre service. Le 18 janvier, Tanguy sera à Palavas-les-Flots et le 19 janvier, il sera à Arles.
Voilà, qui est fait pour notre Tanguy Pasturo national, Barbara Hendricks and her Blues Band, The Road to Freedom, des classiques du blues que vous reprenez avec énormément de grâce. On a évoqué tout à l'heure Strange Fruit qu'on a entendu. Forcément, j'avais envie aussi de donner à entendre aux auditeurs la version de Billie Holiday.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze.
C'est beau de vous voir écouter de la musique comme ça, vous fermez les yeux et vous êtes parti.
From the poplar trees.
Elle est géniale.
Alors justement, quand on reprend une chanson comme ça de Billie Holiday, enfin interprétée par Billie Holiday, est-ce que vous essayez de l'écouter? Non pas pour imiter, bien sûr, parce que c'est pas le but, mais pour sentir l'émotion.
Je l'écoute pas parce que je ne veux pas l'imiter, parce qu'on peut pas.
Ben oui.
C'est comme les gens chanteuses qui essaient d'imiter Maria Callas, c'est impossible.
Oui.
Mais d'avoir l'esprit, et puis pour ça que j'écoute avec plaisir, parce que je l'écoute pas souvent maintenant que je le chante.
Et pourquoi? Mais,
oui, parce que je veux que c'est quelque chose qui sorte de moi.
Mm-hmm. Vous dites que finalement, comprendre l'esprit d'une chanson et d'une voix, c'est aussi connaître l'histoire de l'interprète, de Billie Holiday. Vous dites que cette chanson, elle ne pouvait pas la chanter partout.
Oui, non, mais elle n'avait pas le droit de chanter ça partout. C'était interdit par certains. Il a récemment, pendant les élections, un candidat pour le sénateur dans le Mississippi qui avait dit elle allait avec grand plaisir à un hanging, à un lynchage. Je dis on a toujours besoin d'entendre Strange Fruit.
Ouais,
parce que ces fruits étranges, ce sont des noirs qui ont été lynchés, qui sont pendus.
Ouais. Ouais, je me demandais, Barbara Hendricks, qu'est-ce que ça change vocalement? En termes de technique, on a parlé de votre carrière lyrique, tout d'un coup aborder le blues, on entend votre voix qui se positionne très très différemment, c'est ça qui est aussi très très beau. Comment est-ce que vous l'avez abordé, cette petite passage?
Je chante avec l'instrument que j'ai, je ne change pas la voix. Je crois que à la mort de mon professeur de chant, Jenny Turrell, ce que j'avais plus peur, c'est que d'abîmer ce cadeau qui m'était donné. Mm-hmm. Je dis que j'avais la responsabilité de le faire évoluer, mais certainement pas d'abîmer. Et je crois qu'une des raisons que je continue de chanter à 70 ans, c'est parce que moi, je voulais toujours avoir la possibilité de chanter la musique de Mozart et que ma voix ne s'abîme pas, que je ne pouvais jamais chanter Mozart. Pour moi, ça sera tragique, ce jour-là où je dois dire plus de Mozart pour moi.
Je vais vous présenter quelqu'un qui place sa voix là où il veut. Le problème, c'est que c'est toujours au mauvais endroit. Frédéric Sigrist.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Mais en même temps, j'avoue, c'est vrai. On est en 2019 et j'ai 41 ans.
Non.
Oui, si. Grosso modo, si tout se passe bien, c'est-à-dire si Donald Trump ne fait pas exploser la planète, parce que moi, je crains moins les gilets jaunes que les cheveux jaunes, je suis à mi-chemin. Je suis à mi-chemin, voilà. Sur l'échelle de la vie, je me situe pile poil entre Michel Drucker et un crush de Jean-Marc Morandini. Et je me dis, ma mort, moi, ça m'angoisse parce que ça va être bizarre, mon enterrement. Ça va être comme un de mes one-man shows, sauf que je vais pas parler. Ce qui serait vexant, c'est qu'il y ait plus de rire, par exemple. Et c'est bizarre d'être au milieu de sa vie, parce que j'ai un souvenir très précis de la vie de mon grand-père. Mon grand-père, c'était un homme, il a passé sa vie à être prisonnier. D'abord prisonnier de guerre chez les Allemands, et ensuite prisonnier de ma grand-mère. Ah, les Américains ont pu le faire sortir de son camp, mais ils n'ont rien pu faire pour ma grand-mère. Et j'ai encore une vision très claire aussi de mon adolescence. Jeux vidéo, masturbation, râteau, échecs scolaires, des fois les quatre en simultané. Et tous les jours, je vois la vie de mes enfants à moi qui se dessine sous mes yeux. Et clairement, sur trois générations, c'est-à-dire entre mon grand-père, moi et mes gosses, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien qu'à mon échelle, la vie que j'ai eue enfant n'a rien à voir avec la vie de mes gosses. Quand je vois que ma femme et moi, on est prêts à les emmener aux urgences quand ils ont passé plus de 15 minutes devant un écran, dire, oh, ils ont trop d'écran. Mais moi, à leur âge, je passais ma vie devant la télé. Je regardais tout. C'est la télé qui m'a élevé. L'école, c'était le truc qu'on avait mis entre moi et la télé. À l'époque, on n'en avait rien à carrer du temps que les gosses passaient devant un écran. D'ailleurs, on n'en avait rien à carrer des gosses. Même c'est vrai, ils nous aimaient, les parents nous aimaient, mais ils faisaient confiance. Moi, je prenais mon vélo sans casque et je partais avec des potes 15 km plus loin dans un hangar désaffecté où on jouait aux fléchettes avec des seringues de toxico qu'on trouvait par terre. Le soir, je rentrais, ma mère, elle me demandait pas de lui raconter ma journée en détail comme on le fait avec les gamins d'aujourd'hui. Alors, raconte-nous comment ce qui se passait aujourd'hui. Non, moi, les seules fois où ma mère m'a demandé si ça allait, c'est quand elle m'a vu passer au-dessus d'une bagnole en vélo, elle est venue me voir, elle m'a désinfecté à l'eau de Javel, elle m'a remis sur mon vélo et zou, c'était reparti. Le traumatisme crânien, ça n'existait pas encore. Moi, je vois avec mes gosses dans ma maison, ils montent pas à l'étage sans être accompagnés. On sait jamais. Hein. Autant les poux, on n'en veut pas à la maison, autant des puces, si ça permet de toujours savoir où ils sont, pourquoi pas. Moi, l'écologie, pareil, pour moi, c'était un truc de pauvre. C'était le jardin de papy. Le bio, pour moi, aujourd'hui, c'est payer une fortune des aliments que nos grands-parents mangeaient parce qu'ils avaient pas de fric. Le bio, c'était un truc de galérien, qui n'ont pas les moyens d'aller au supermarché. Des fraises en hiver, des tomates, pour moi, à l'époque, c'était pas une catastrophe pour la planète, c'était le progrès. Quand j'allais au McDo, car j'allais au McDo, oui, j'avoue, j'allais au McDo. À l'époque, j'avais pas encore le sentiment d'être un pétrolier en train de dégazer sur une plage bretonne quand j'allais là-bas. Mais c'était festival, un vrai gangbang alimentaire. Le cauchemar qui réveille les diététiciens la nuit. Menu Big Mac taille XL, plus une grande frite, un grand coca. Vu que ça risque d'être un peu juste et que j'ai faim, t'ajoutes un Royal Bacon et un Mac de luxe. Il m'aurait mis une barre de plutonium sur un bâtonnet en dessert, je te l'aurais bouffé. Les OGM, mais c'est compris dans le menu, j'en veux des OGM, fais péter les OGM. Le coca, mais c'était pour moi ce que le pinard était à Gérard Depardieu. Des fois, ma mère, elle avait oublié d'en racheter, mais vous m'auriez vu, j'étais Samina Seri en désintox. Il est où le coca? Il est où le coca? J'ai mis du coca. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont l'impression que c'est jour de fête quand ils ont le droit de boire des tisanes Yogi Tea. Non, mais j'en suis là, je leur interdis des trucs. Le Nutella pour mes enfants, ça a le côté subversif de l'héroïne, tellement pour eux, c'est mal. Si mes enfants entrent en rébellion avec nous un jour, ils boufferont du Nutella sur du pain demi Harris à un meeting de Laurent Wauquiez. C'est le seul truc qu'ils pourront faire pour nous faire chier. Moi, j'ai connu des tourne-disques. Avec la petite rondelle au milieu qui te permettait d'écouter les 45 tours. Hein, si vous avez moins de 40 ans, vous pouvez pas comprendre de quoi je parle. Mais en même temps, si vous avez moins de 40 ans, vous nous écoutez pas. Un jour, mon chat a joué avec la rondelle. Impossible de remettre la main dessus. Donc pour continuer d'écouter les 45 tours de Jeanne Masse, ma mère, elle a dû le remplacer par un bouchon d'oasis tropical format familial. Elle est ingénieuse. Hein. Quand tu voulais enregistrer ton film ou ta série préférée sur ton magnétoscope, c'était pas le confort Netflix, OCS, mes gonades, là. C'est plus joli qu'OCS, mes couilles. Hein. Tu faisais un programme en te fiant au Téléstar ou au Télépoche, ouais. Et t'enregistrais 25 minutes de publicité avant d'avoir Indiana Jones et l'Arche perdue, film dont t'avais pas la fin parce que con comme t'étais, t'avais mis une cassette de 120 minutes dans le magnétoscope. Ouais, ah, et après tu la rembobinais et un jour c'était rembobiné, t'es... ah non, plus de film. En 41 ans, c'est dingue de voir comme le monde a changé. Donc dans les 40 années qui viennent, c'est pas du tout impossible qu'on ait plus les moyens de prendre l'avion, ni même la voiture. Peut-être que les prochains Fast and Furious, ça va se faire en covoiturage. Ils vont rentrer dans la voiture, suivez cette voiture! Ah non, on n'est pas assez nombreux. Sortez demander à des gens s'il n'y en a pas qui veulent aller dans le même sens. Vin Diesel, il va peut-être être obligé de changer de nom. Vin Bioéthanol. J'ai vu disparaître des cabines téléphoniques, des baladeurs, des t-shirts Waikiki, le groupe Niagara, le socialisme. Qui dit que je verrai pas disparaître être les voitures. Allez, c'en est trop. Prochain bilan dans 41 ans.
Bravo, Fred.
La bande originale sur France Inter.
Là, tu nous as donné un bon petit coup de vieux avec ces histoires de VHS 120 minutes. Ben oui. Tout d'un coup, on oublie très, 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 très vite tout ça.
Barbara Hendricks, l'album de Road to Freedom sort chez Arte et Verum. C'est votre label. Pourquoi avoir quitté EMI après 25 ans de fidélité?
Oui, parce qu'il avait un changement un peu dans le business des disques où j'avais l'impression que pas seulement EMI, mais beaucoup des maisons de disques classiques ont un peu perdu confiance dans ce répertoire que j'aime tant et aussi même dans les artistes. Ils voulaient normalement, quand j'avais enregistré, je dis voilà, j'ai un répertoire qui est prêt. Bon, j'ai envie de le réenregistrer. Mais je n'ai jamais pensé qu'est-ce que sera quelque chose qui va bien vendre. Ah, et là, j'avais décidé qu'il avait une partie de mon répertoire que je n'allais pas offrir. Mmh. J'étais toujours sous contrat. Mais j'ai enregistré pour moi-même, pour mes archives. J'allais laisser ça à mes enfants. Et après à peu près 5 ans, C'était la fin de mon contrat avec Amy. J'étais assise chez moi, dans le salon, personne n'appelait. Et je dis, tant pis, on y va, on va faire quelque chose nous-mêmes. J'aime beaucoup et c'est un sens d'être une femme libre, d'avoir la liberté, c'est aussi ça.
Jusqu'au bout.
Oui, la liberté, parce qu'en plus, la liberté, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut prendre.
Ouais.
Vous avez votre liberté, vous pouvez l'offrir, mais personne ne peut le prendre, même s'il te tue. Voilà.
Amazing Grace.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my my fears relieved. How precious deed that grace appeared the
Barbara Hendricks est avec nous pour The Road to Freedom avec un blues band, c'est chez Arte Vérome.
Je crois qu'il y a un collège qui porte votre nom à Orange.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous a annoncé ça?
D'abord, parmi les candidats, j'étais la seule femme, la seule qui était noire, qui n'était pas française et qui n'était pas morte.
Ça fait pas mal de trucs.
Et moi, je me demandais s'ils ne pensaient pas que c'était Jimi Hendrix, mais bon, c'était les collégiens eux-mêmes qui ont décidé.
Ouais.
Ah, et j'étais très touchée parce que c'était la même année où la Marie de Orange était tombée dans les mains du Front National.
Ouais, c'est un
et
symbole fort.
Et j'ai vu ça comme un symbole de résistance par les collégiens.
Ouais, c'est beau comme message quand même que ces gamins aient choisi Barbara Hendricks à Orange.
Ouais. Et je, à propos de Amazing Grace, il avait parce que pendant le concert, quand je fais le concert, je fais les citations de Martin Luther King. Il avait dit que Dieu a deux bras étendus. L'un est assez fort pour nous entourer de justice et l'autre assez doux pour nous entourer de grâce. Voilà. Et il parle beaucoup de l'amour. Moi, je suis pour une révolution de l'amour parce que je crois que l'amour, c'est la seule chose qui peut vraiment résister la haine, qui nous porte la lumière dans la vie. Il faut aimer d'abord celui ou celle qui est en face de vous. Et si vous pouvez faire ça, vous pouvez aimer tout le monde.
On va rester là-dessus, Barbara Hendricks.
Parce que c'est beau.
Mais ouais, Barbara voilà. Hendricks.
J'ai envie de t'aimer, Leila.
Un blues band, pas trop près quand même.
Ça fait longtemps que t'as envie de l'aimer.
Faut pas trop lui donner de, voilà.
Bah oui, bah voilà.
The Road to Freedom.
C'est la nouvelle année.
Le chemin vers la liberté. Barbara. Ce chemin n'est pas encore complètement accompli. Merci, Barbara Hendricks, d'avoir été avec nous. On doit vous présenter avant tout quand même des excuses.
Bien sûr, bien sûr. Et désolé pour vous déjà, mademoiselle Barbara Hendricks, qui, à peine installée dans ce fauteuil, vous êtes fait insulter, humilier, blasphémer par Agnès Hurstel qui a sous-entendu que vous transpiriez un peu fort. Mais quelle honte, Agnès! En revanche, c'est là. Enfin bon, c'est une autre histoire. Désolé pour Monsieur Barbara Hendricks. On a découvert qu'il n'avait pas le droit d'aller sur le yacht de Hugh Hefner pour la soirée Playboy.
Non, mais c'est lui qui a dit non, 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 on est
mort. Ouais, après que vous lui laissez lancer le regard, j'imagine. Il n'a pas pu y aller. Vous savez, hein, d'après ce que m'a dit Leila, c'est très surfait comme soirée.
C'est
donc,
vrai.
Rien à regretter. Désolé pour tous les réalisateurs de films présentés à Cannes en 1999 et qui ont découvert que si leur film était présenté le matin, il n'avait pas été vu par Jeff Goldblum. Et si c'était après le repas de midi, c'est Barbara Hendricks qui ne les regardait pas. La vie de juré à Cannes, c'est pas facile, les amis, je vous le dis. Et désolé enfin pour Leila qui trouve qu'aimer l'autre, c'est l'exploiter.
C'est vrai.
Alors ça, c'est bien un esprit malade. Hein. Moi qui ne suis qu'amour, douceur, dent propre et cœur avec les doigts, laisse-moi te guider vers la lumière.
Dent propre, ouais. C'était chasser l'intrus. Merci Barbara Hendricks.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous.
Bravo.
C'était un plaisir. Demain,
ton chouchou.
Mais Vincent Moscato, voilà, c'est notre invité annuel et on s'en réjouit. Et tout de suite,
Carnet de campagne avec Philippe Bertrand. Voilà. Bonne journée à l'écoute d'Inter.
Demain.
Merci les amis.